Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Historien, auteur du rapport remis à l'Élysée en janvier dernier, quand Emmanuel Macron vous a commandé un travail de mémoire, de vérité, de réconciliation aussi autour de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Vous étiez hier aux côtés d'Emmanuel Macron au pont de Beson en banlieue parisienne. Vous y étiez. Oui. Ce pont qui a été emprunté il y a 60 ans, jour pour jour, par les manifestants algériens qui arrivaient du bidonville de Nanterre à côté pour une manifestation à l'appel de la branche française du FLN. Ça s'est soldé donc par un massacre. Des crimes inexcusables, a dit hier le chef de l'État. On va y revenir. Un mot d'abord sur la forme. Emmanuel Macron a préféré ne pas faire de discours, pas trop de caméras, au profit d'un simple communiqué. Auriez-vous souhaité, sur cet épisode douloureux, une communication plus forte de la part de l'Élysée ?
D'abord, pour répondre à votre question, oui, j'étais au pont de Beson hier, mais j'étais pas tout seul, parce qu'il y avait effectivement des descendants d'enfants d'immigrés algériens en France, mais aussi des appelés qui ont fait la guerre d'Algérie, qui étaient présents à cette commémoration. Il y avait aussi des petits-enfants de harkis qui étaient présents aussi à cette commémoration, des rapatriés d'Algérie qui étaient présents, qui étaient invités. Bref, la volonté qu'a eu le président de la République, c'était d'essayer de mêler les différentes mémoires autour de ce massacre, disons, du 17 octobre 1961, pour en faire, disons, un événement de portée universelle et pas circonscrit à une seule communauté.
Mais tout le monde n'a pas...
Et ça, c'est quand même extrêmement important à relever et à analyser, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun des drames, des commémorations et des dates qui ont été choisies pour précisément comprendre ce qui s'est joué pendant la guerre d'Algérie, faire en sorte que tous soient associés et non pas que chaque mémoire soit cloisonnée les unes contre les autres ou les unes contre les autres. C'est une volonté qui a été la mienne d'ailleurs exprimée dans le rapport que j'ai remis au président de la République. Essayer de décloisonner les mémoires, les faire circuler et faire en sorte que cette mémoire commune puisse enfin, disons, exister et dans un refus de guerre des mémoires, de contradictions perpétuelles et permanentes.
Mais ça, c'est la première chose. Juste une précision, pardonnez-moi. On entendait ce matin sur l'antenne de France Inter un parent de victime dire « Moi, je n'ai pas pu accéder à cette commémoration hier. Je me suis retrouvé derrière un cordon de policiers. Pourquoi tout le monde n'a pas pu participer en fait à cette commémoration ?»
Alors écoutez, là, c'est pas moi qui organise les commémorations.
Oui, non, mais ça, je sais bien.
Il faut quand même...
Mais vous disiez, voilà, tout le monde pouvait être là.
Oui, mais la volonté politique qui était là, la volonté... D'abord, c'était pas un meeting, je veux dire, donc c'était pas un rassemblement organisé sur plusieurs milliers de personnes. Il y avait, je crois, une cinquantaine de participants qui avaient été invités, mais qui représentaient des associations, des mouvements revendicatifs qui ont combattu depuis de très nombreuses années pour la reconnaissance par l'État de ce massacre du 17 octobre 1961. Donc, il y avait une cinquantaine de personnes. Et on peut que regretter le fait, peut-être, bien sûr, que d'autres n'aient pas pu accéder à cette commémoration du pont de Beson.
Alors, ce communiqué de l'Élysée, quelle force mémorielle
là ? Mais toujours pas de reconnaissance de l'État. Est-ce que vous êtes déçu ce matin ?
Alors écoutez, d'abord c'est pas un communiqué, c'est un texte. François Hollande avait fait un petit communiqué, donc là il s'agit d'un texte, donc beaucoup plus long, un texte qui est très explicatif, qui raconte le 17 octobre 1961. Ce serait trop long de le lire ici à l'antenne, parce que c'est un long texte qui n'est pas un communiqué.
25 lignes.
Oui, c'est vrai. Et le précédent communiqué du chef de l'État, François Hollande, c'est trois lignes. Là, on a un récit de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. C'est tout à fait important. D'autre part, il faut bien sûr le dire, les mots qui sont utilisés, c'est que pour la première fois, un chef d'État en exercice, je dis bien en exercice, reconnaît la responsabilité de l'État dans un massacre considéré comme un crime. Le mot est utilisé à l'intérieur de ce texte, c'est la première fois. C'est la première fois, disons, qu'un chef d'État en exercice utilise le mot crime et la colle, si vous lisez bien la phrase en question, et il la colle, bien entendu, à la question de l'État et de la République. Et donc, par conséquent, c'est une avancée.
Alors certains, petite avancée.
C'est une avancée. On peut considérer évidemment que c'est insuffisant. D'autres, je le sais, bien sûr, je lis comme tout le monde. Étant donné que, comme vous le savez, je travaille depuis une petite quarantaine d'années sur ces questions, d'autres évidemment auraient préféré davantage de justice, car c'est ça la revendication qui est avancée. Et d'autres, encore plus radicaux, disent il fallait juger les les responsables à l'époque, hein, qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire l'ensemble des ministres du général de Gaulle, et pourquoi pas, certains disent, et pourquoi pas le général de Gaulle lui-même. J'ai entendu cela. J'ai lu cela dans les communiqués hier soir, et là, ça me paraît tout à fait étonnant de considérer qu'il faut aujourd'hui juger le général de Gaulle précisément au moment où s'avancent ceux qui veulent réhabiliter le maréchal Pétain.
Oui, mais il faut redonner la étrange. Formule, parce que la formule, c'est, il est écrit dans ce communiqué, les crimes commis cette nuit-là, est-il écrit, donc, sous l'autorité de Maurice Papon, sont inexcusables pour la République. Le fait d'avoir souligné sous l'autorité de Maurice Papon, effectivement, peut interroger. Est-ce que vous, ça ne vous interroge pas? Pourquoi est-ce qu'il a été fait cette référence-là? On imagine que Maurice Papon n'a pas agi seul et qu'il a agi sous l'autorité d'un gouvernement et d'une présidence de la République.
Oui, alors donc, ça voudrait dire qu'il faut juger le général de Gaulle, c'est ça, oui, ce que vous sous-entendez, ce que vous venez de dire à l'instant. C'est pas ma position, parce que, vous savez, sur ces questions-là, il y a quand même des témoignages, il y a des archives, en particulier le livre de Marie-Odile Ternoir, qui était la fille de Louis de Ternoir, qui était le ministre très important du général de Gaulle, et qui précisément indique très précisément que le général de Gaulle a donné des consignes de fermeté, bien sûr, dans la répression de cette manifestation, ce qui est absolument regrettable, bien entendu, mais il n'a jamais, le général de Gaulle, demandé que l'on tire par balles sur des manifestants algériens. Ça n'existe pas. Et donc, il faut quand même faire attention, pas plus d'ailleurs que l'ensemble des ministres. Donc, il faut par conséquent bien savoir ce qui s'est passé cette nuit. Alors, si vous voulez, on peut, dans le cadre des 10 minutes qui me reste, expliquer exactement ce qui s'est passé dans la chronologie des faits sur le 17 octobre 61.
Je pense qu'on n'aura pas le temps de détailler.
C'est... Ah, pardon.
Non, mais on peut y aller. Bien sûr qu'on peut expliquer.
Ne vous vexez pas. Gardez-nous un peu de temps.
Pas sur 10 minutes. Mais effectivement, c'est important de rappeler la chronologie des faits. Ça commence par une convocation de la branche FLN des manifestants, je l'ai raconté, qui venait de...
Mais c'est pas une branche FLN, c'est la Fédération de France du FLN.
Très bien. Branche française du FLN, qui appelle les Algériens à quitter le bidonville de Nanterre pour aller sur ce fameux pont.
Non, pas du tout.
Alors, racontez-nous précisément.
C'est pour refuser le couvre-feu imposé. Oui. C'était pas simplement pour aller à l'intérieur de Paris.
Bien sûr.
Donc c'était pour sortir et briser l'encerclement spatial dans lequel vivait la masse des ouvriers algériens depuis de nombreuses années, en particulier dans les bidonvilles. C'est pour ça, par parenthèse, que cette manifestation d'hier a eu lieu au pont de Beson, parce que ce pont était en face du grand bidonville de Nanterre. Donc par conséquent, il s'agissait de braver, disons, l'interdiction qui leur a été faite, et donc, par conséquent, de refuser les chasses aux faciès, l'enfermement, l'encerclement qui existait de cette immigration depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire depuis le début, en fait, de la guerre d'Algérie, et même avant. Donc, par conséquent, cette manifestation pacifique, puisque je dois le signaler très rapidement, on n'en a pas le temps, que cette nuit-là, il y a eu zéro mort policier. Hein, contrairement à ce qui a été prétendu à l'époque, il n'y a pas eu de mort policier. Par contre, il y a eu de très nombreux morts algériens et des fusillades à balles réelles. Hein, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu aussi un engrenage qui s'est déroulé. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement à l'intérieur de la police française de cette époque-là, certains partisans, et c'était une des grandes craintes du général de Gaulle de l'époque, il y avait des partisans de l'OAS. N'oubliez pas que 3 semaines seulement avant le 17 octobre 61, le général de Gaulle avait échappé à un attentat très grave à Pont-sur-Seine. Et qu'il y avait, par conséquent, à cette époque-là, une hantise de l'infiltration qui pouvait exister à l'intérieur de ces manifestations. Donc voilà, ça il faut resituer, il faut contextualiser les choses. Et puis aussi, bien sûr, il y a des policiers qui avaient été tués quelques jours auparavant, c'est vrai, dans le contexte de climat, de guerre. Il faut le communiquer, d'ailleurs, le texte resitue, disons, cette manifestation du 17 octobre, dans une longue durée, qui est celle précisément de la violence de la guerre.
Alors vous disiez à l'instant toute la difficulté de dire aujourd'hui, d'affirmer qu'il s'agissait bien de crimes d'État. Est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître que ça sous-entend tout de même 12 000 arrestations, oui, une logistique d'État tout de même?
Je l'ai écrit moi-même dans l'interview qui est parue hier matin dans Libération. Et je l'ai écrit dans ma thèse d'État que j'ai soutenue en 1991. Thèse établie à partir de la consultation de nombreuses archives policières, puisque les archives ont commencé à s'ouvrir à partir de 1992, et de nombreux chercheurs ont commencé à travailler sur les archives de surveillance, les archives policières, ce qui est mon cas, sur ma thèse d'État. Et dans cette thèse que j'ai soutenue il y a maintenant 30 ans, il y avait effectivement le chiffre de 12 500 qui a été rectifié à la hausse par le rapport Mandelkern, qui a été remis à Jean-Pierre Chevènement, à sa demande, à la demande de Jean-Pierre Chevènement, puisqu'on parle dans ce rapport de 14 500 arrestations. Vous voyez que les choses évoluent pas tout à fait dans le sens qu'on pourrait indiquer, et y compris pour celui de nombre de victimes.
Dans votre rapport remis au président en janvier dernier, vous préconisiez sur le 17 octobre une journée de commémoration nationale. Là, effectivement, Emmanuel Macron a participé hier, mais il n'a pas repris cette idée d'une commémoration nationale. Pourquoi ce n'est pas une idée qui a été reprise ? Est-ce que ça vous a, je ne sais pas, chagriné ?
Oh, vous savez, comment vous dire ? Moi, ça ne me chagrine pas, bien sûr. Tout n'a pas été intégralement repris, bien sûr.
Sur vos 22 préconisations, il y en a 3, 4, 5 ?
Il y en a un petit peu plus, j'en citerai quelques-unes, parce que vous savez, il y a eu quand même, bien entendu, Ali Boumendjel, dont le meurtre a été reconnu. Bien sûr, il y a eu, ce que vous le savez, sur la question des harkis. Il y a, bien sûr, disons, toute une discussion qui a commencé autour de la question des archives. Il y a des bourses qui ont été données aux jeunes chercheurs algériens travaillant sur la guerre d'Algérie. Il y a le début de création d'une stèle en l'hommage de l'émir Abdelkader, la préparation d'un grand colloque international à la Bibliothèque nationale de France en janvier 2022. Les participants sont déjà prévenus.
Donc là, vous dites que tout a été repris.
Non, pas du tout. Ah. Je vous cite ce qui a déjà été fait. Mm-hmm. C'est pas deux, trois petites choses. Il y a un véritable travail qui a commencé à s'opérer sur la question des essais nucléaires. Il y a la réactivation de la commission qui se met en place sur cette question des essais nucléaires. Il y a toute une commission qui se met en place aussi sur la question des cimetières en Algérie. Ce sont des questions très importantes. Bref.
Mais sur la question des archives, vous l'esquissiez.
Oui, pardon.
On l'entendait dans le journal de 8h tout à l'heure. Les archives, l'accès aux archives reste encore extrêmement compliqué. Alors que vous aviez demandé est-ce que ça soit facilité. C'est le cas ou pas ? On en est où sur l'accès aux archives sur les années 61-62 ?
Bien sûr,
nous là.
Bien sûr. Les archives, bien entendu, j'avais demandé dans le rapport, puisque vous l'avez lu attentivement, cette abrogation de l'article 1300. Ça fait partie des revendications qui sont les miennes. Mais il y a quand même eu des levées d'interdiction sur un certain nombre d'archives.
Mais pas sur toutes.
Mais pas sur toutes, effectivement. Mmh. Hein, et en particulier, par exemple, sur les archives concernant les essais nucléaires. Et on comprendra peut-être pourquoi, bien entendu. Mais cela signifie, bien entendu, qu'un certain nombre de travaux universitaires, en ce moment en cours et déjà soutenus, ont déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réfugier derrière le prétexte de la non-consultation d'archives pour ne pas commencer à travailler sur cette histoire. Je vous prendrai pour seul exemple ma propre trajectoire universitaire. C'est qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'archives. Ça ne m'a pas empêché d'écrire les biographies de Messali, de Ferhat Abbas, du général de Gaulle, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi la parole des témoins, il y a aussi la presse, il y a aussi le travail journalistique. Et à ce propos, je signale que pour le 17 octobre 61, c'est le grand travail réalisé par la presse à l'époque, en 1981 notamment, dans Libération, qui a levé pour la première fois le voile. Et ce n'était pas forcément les travaux académiques, ce n'était pas forcément les travaux, disons, des universitaires et des historiens, mais c'était les investigations journalistiques sur cette question-là qui ont été formidables, qui ont permis une avancée considérable. Tout ça pour vous dire qu'il faut les archives, mais on ne peut pas réduire tout le travail historien aux archives d'État. Il y a aussi les témoignages, il y a aussi le travail, l'exploration, l'investigation journalistique. Alors, qu'il ne faut pas sous-estimer.
À propos des archives et à propos des chiffres précis, à propos de ces massacres du 17 octobre 1961, 3 morts seulement selon la version officielle, 120 selon les derniers travaux de chercheurs britanniques. Pourquoi, 60 ans après, est-il aussi difficile d'être précis sur le nombre de morts ?
Bah, pour une raison, c'est précisément là le récit de cette nuit tragique qui permet de l'expliquer, parce que les 3 morts, on est passé à 6 morts, ensuite une semaine après, et là, effectivement, il y a une très grande difficulté à trouver le nombre de morts. Vous savez, des Algériens ont été jetés dans la Seine et leur cadavre a été repêché que beaucoup de jours plus tard. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont dérivé. C'est dans le rapport Mandelkern. C'est-à-dire que vous aviez des corps qui étaient difficilement identifiables, et Mandelkern identifie 88 corps qui sont entrés à l'Institut médico-légal à Paris, 88 corps d'Algériens, dont certains ont été repêchés, plusieurs jours après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entre le 17 octobre et le 31 octobre qu'on constate une surmortalité considérable chez les Algériens.
Et puis, il faut dire aussi que le 17 octobre n'est que l'apogée d'une séquence plus longue de massacres.
Tout à fait.
Un mot sur le contexte tendu en ce moment entre Paris et Alger. Alger qui reproche notamment les propos d'Emmanuel Macron au début du mois, quand il a accusé, je cite, le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Qui a tort, qui a raison dans cette histoire entre Paris et Alger ?
Bon, vous savez, c'est qui a tort, qui a raison. Ça fait des années et des années, bien entendu, qu'il y a des disputes idéologiques sur la mémoire, sur l'histoire, sur le rapport à la construction des imaginaires. Je l'ai dit dans mon rapport, qui ne sont pas les mêmes, bien entendu.
Mais les rapports n'ont pas toujours été aussi tendus diplomatiquement comme ils le sont en ce moment.
Oui, mais il y a des moments de tension qui retombent, qui reprennent. On l'a vu. Je prends cet exemple, évidemment, de 2003-2005, où un traité d'amitié devait être signé entre la France et l'Algérie, comme vous le savez. Puis en 2005, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale française d'une loi mois, considérant que la colonisation était un acte positif, ce qui a naturellement interdit ou empêché la réalisation, la concrétisation de ce traité d'amitié proposé à l'époque par le président Jacques Chirac. Donc on a comme ça des moments où on a le sentiment qu'on s'approche, disons, non pas d'un règlement définitif, parce que je ne crois pas personnellement qu'on arrivera à régler de manière définitive les questions mémorielles.
Sauf si la France présente ses excuses.
Ce n'est pas possible.
Alger demande des excuses. On ne les formulera jamais, les excuses.
Je ne crois pas que par un seul discours qui prononce des mots du type excuse, repentance, etc., que l'on va pouvoir y parvenir. Pourquoi? Parce que le chantier mémoriel est immense. J'en parle aussi dans mon rapport. C'est immense. Je veux dire, on ne va pas ici faire l'inventaire des choses. Les imaginaires ne sont pas les mêmes. Alors, il faut effectivement des discours, il faut effectivement des actes, il faut effectivement des symboles, mais il faut surtout se mettre en mouvement pour commencer à traiter de ces questions. Et je dois ajouter qu'en l'espace de quelques mois seulement, en France, nous avons réalisé, j'ai parlé de Boumengel, des archives du 17 octobre, des bourses d'études, etc. Nous avons en 6 mois réalisé plus de choses qu'en 60 ans.
Oui, mais il y a une question qui se pose.
Il faut quand même en avoir conscience.
Oui, mais il y a une question qui se pose quand même, c'est la question du timing, et ce sera ma notre dernière question. En s'adressant là, comme ça, à plusieurs reprises aux Français d'origine algérienne, les harkis, vous en avez parlé tout à l'heure, le mois dernier, la commémoration du 17 octobre aujourd'hui, les accords d'Évian prochainement, en mars prochain. Est-ce que vous observez quand même un calcul électoral de la part d'Emmanuel Macron ?
Il y a toujours, à propos de l'histoire, des calculs électoraux. Qui ne fait pas de calculs électoraux à partir de récits historiques? C'est l'essence même de la politique, précisément, que de vouloir à chaque fois mettre l'histoire de son côté. Tous les hommes politiques font cela, bien entendu. Maintenant, reste aux historiens le fait de ne pas s'inféoder, bien entendu, aux récits proposés par les acteurs politiques. Toute la bataille est là, bien entendu. Mais c'est une tendance générale, surtout que la France est la terre privilégiée du politique.
Mais n'est-ce pas dommageable de faire de ce dossier si épineux un argument électoral au moment où l'extrême droite s'empare de ce sujet, je pense évidemment à Éric Zemmour, et sa vision de cette séquence, qui risque d'attiser finalement la campagne au détriment peut-être d'un débat de fond.
Mais regardez toutes les campagnes électorales antérieures. Les sujets d'histoire n'ont jamais manqué, par exemple autour de la Révolution française. Ça a été un grand sujet de polémique, de discussion éternelle, bien entendu.
Mais c'est pour ça qu'on a un communiqué hier, qu'on a de l'écrit et pas de l'oral. Il fallait pas déraper, c'est ça, non ?
Je pense qu'il faut effectivement des textes écrits, parce que l'oralité, quelquefois, nous amène beaucoup trop loin et nous interdit d'avoir une vision historique très précise, ce que j'ai essayé de faire ce matin.
Eh bien, merci. Avec plaisir. Merci d'être venu en parler ce matin, Benjamin Stora. Et puis, je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'une BD, co-auteur de Histoire dessinée des Juifs d'Algérie, qui vient de sortir aux éditions de La Découverte. Un dernier mot ?
Non, puis il y a mon rapport, Les Passions douloureuses, aux éditions Albin Michel.
C'est dit. Merci et bonne journée.